Tov.
Où est-ce qu'il est, Tov? Ah, on te voit pas. Viens, mon ami.
Shalom, shalom. Et donc, on vient dans notre étude de la parashat à Shavua. Et aujourd'hui, c'est un cas un petit peu particulier parce que parashat Kitissa, d'habitude, alors évidemment, c'est la parashat du veau d'or, bien sûr. Mais c'est également la paracha qu'on va lire de manière générale à Pourim. Eh oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est soit la paracha juste avant, soit juste après Pourim. Mais cette année, comme c'est Pourim Katan, c'est-à-dire qu'on a deux Hadar, donc on ne va pas parler de Pourim encore. Mais...
On pourra manger les gâteaux,
quoi. Bon, tu peux toujours. Mais ça veut dire qu'on peut se concentrer sur une autre partie de la paracha qu'on a moins l'habitude d'évoquer, du moins à ce moment-là. C'est la première partie de la paracha. La première partie de la paracha, c'est ce qu'on va lire dans deux Shabbat. Ça, la paracha, on va la lire ce Shabbat. Mais la première partie de la paracha, c'est ce qu'on appelle parachat Shekalim. Et parachat Shekalim, on la lit à l'aube de Rosh Chodesh Adar. Alors, bête, en l'occurrence, ici, cette année. C'est-à-dire, pour nous préparer à Pourim et nous préparer à Pessah. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, on prend le début de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Qui? Oui, page 142.
Ah, 142.
Voilà. C'est-à-dire, Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Qui tissa et roche béné Israël l'ifkudehem, venatenu ish kofer nafsho la Hashem l'ifkodotam. Ah, ça y est, Moshe met en place les impôts. Là, en France, ils sont en pleine campagne électorale. Ici, on nous parle toutes les 5 minutes des impôts et de la vie qui augmente et les prix qui augmentent, ce que tu veux. Il est temps de parler Kesef, Kesef. Eh bien, ici, la Torah nous dit, on va mettre en place un impôt. Mais il est très bizarre, cet impôt. Parce que ce n'est pas un impôt sur le revenu, qui va donc dépendre de tes revenus. C'est un impôt égal pour tout le monde. Je ne sais même pas si ça existe, ça, en France, en Israël.
Mais si, tous les produits à TVA, par exemple.
Ah, tu dis la TVA, ouais. Non, ouais, la TVA, c'est la même pour tout le monde. Mais la TVA, c'est pas moi qui dois donner la TVA. C'est les vendeurs qui, dans leur prix, ils incluent la TVA.
Ouais, mais c'est moi qui la paye.
C'est moi qui la paye, mais c'est pas moi qui la donne.
C'est un impôt indirect.
C'est-à-dire, si j'achète pas, je paye pas la TVA. Ou alors, si je vais acheter que à Eilat, tu payes pas la TVA non plus?
Ouais, tu rêves.
Je rêve? Quoi, je rêve?
Parce qu'il y a toujours quelque chose.
Ah, il va voyer. Tu dis qu'on a réussi à nous... Halloween comme ça? Non, non. Ici, on nous parle d'un impôt que chacun va devoir donner. Pour faire marcher le quoi? C'est ça la question. Il est. Beratenu ishko fer nafsho la Hashem bifkodota velo yebaem negev bifkodota. D'abord, cet impôt, il sert à quoi?
C'est pour compter
pour les compter.
La population.
D'abord, l'ifko d'Otam. C'est d'abord pour les compter.
Voilà.
Et donc, il n'y aura pas de negef, il n'y aura pas d'attaque lorsqu'ils seront comptés. Ma si pour.
C'est une mauvaise idée.
Pourquoi est-ce qu'il y aurait une attaque si on compte les gens?
Oh, une attaque. Épidémie.
Oui, une attaque, je veux dire, pas forcément militaire. Negev, Negev, c'est pas forcément non plus un virus. Negev, ça veut dire que tu seras mis en danger. D'accord? Ça peut être un virus, ça peut être une armée, l'objet. Pourquoi est-ce que je risque d'être mis en danger si je compte? Et bien pour une raison très simple. Tu peux me compter, moi? Moi, je suis quelqu'un qui est décomptable. Moi, je suis réduit à un numéro. Non, Quoi ? Si on te dit, toi, tu es le numéro 782 248. Ben, non, je suis Ethan. Je ne suis pas 740 248. Donc, si tu veux réduire l'homme à un numéro, c'est quoi ? C'est faire passer l'homme de la qualité de « mi » à « ma ».
Mais aujourd'hui, alors, on a un numéro. N'importe quoi. Théotard, c'est un numéro. On est tous un numéro. Tu ne peux rien faire. Excuse-moi.
Eh bien, je t'excuse. Mais je ne vais rappeler que mon cas personnel. D'ailleurs, après, tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais moi, je me suis déjà pris plusieurs fois des punitions à l'armée de Shabbat parce que j'étais chutzpan, je désobéissais aux ordres lorsqu'on me disait « Quel est ton misparichi ? Quel est ton numéro individuel ?» Vous savez que chaque soldat, il reçoit un numéro. C'est ce qui a marqué sur ses plaques. Et je disais « Elle est misparichi. » Il dit « Comment ça ? T'as pas de numéro ?» Et non, j'ai pas de numéro. Moi, Ethan Fison. Ethan Fison, l'O Misparichi. Il dit, tu veux pas me...
C'est quand même ça.
Qu'est-ce
que Machloket, Rav Koukosser, Khalzon Ishmetir.
Rav Benchai.
Père
Nachlista Rosh Ben Harim.
Mahon Torah et Haaretz, Posek Mo Rav Israeli, Shepasak Mo Khalzon Ish. Shemota.
טוב, נו נו, תודה רבה עליו. ואיפה הרבנים הספרדים בסיפור? זה בעיה. בקיצור, אוקיי, רובי ענות היסטואר. אני איתן פיזון, אני לא 619-6625. זה שם מספר אישי. אתה יודע, לא קונה זה. ואני אומר, אני איתן פיזון. מה גרומר, הוא לי אמי הנומרו של לברה אושוויץ. מה שיפה הנומרו. Alors tu me dis, mais t'as ta Teoudat Zehout, tu la donnes tout le temps. À chaque fois qu'on me demande ma Teoudat Zehout, que ce soit au Misradap, ni machin, je leur dis, Ethan Fison. Ils me disent, oui, mais pour l'ordinateur, j'ai besoin de votre numéro. Ça, je leur donne. Donc je suis d'accord avec toi que pour des raisons informatiques, parce qu'il peut y avoir deux Ethan Fison.
Oui, mais s'ils font le contraire. Teoudat Zehout, et après ils te disent, et votre nom.
Alors, c'est à toi de leur dire. Non, c'est d'abord mon nom et après ma Teoudat Zehout. Donc, Bekitsour, si je suis un numéro, je suis ma, je ne suis pas mi. Je suis quelque chose ou je suis quelqu'un. C'est toute la différence en bataille. Donc, ici, on nous dit, tu vas donner un impôt, tu vas donner quelque chose pour qu'on puisse te compter. Parce que toi, on ne peut pas te compter. Ok ? Agave, moi j'ai une neshama. Ma neshama elle est infinie. Elle n'est pas numéricable. Elle est infinie. Donc, veloy enegev bifkodotam. Zeyitenu. Ma c'est zeyitenu. Nous dit Moshe, nous dit Rashi, c'est que Moshe a eu du mal à comprendre. Rashi te dit Zeyitenu, eralo kemin madbea shel esh. Et ça fait partie des fois où Moshe il a eu du mal à comprendre. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre? Parce que qu'est-ce qu'il faut donner? Regardez. Kol haover al pekudim machatzit ha-shekel ou ha-shekel be-shekel ha-kodesh. Il faut donner quoi? Un demi-cycle d'argent. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre? Parce que c'était un demi-cycle. Moshe, il n'arrive pas à intégrer les moitiés de choses, ou les choses pas complètes. Moshe ou Shalem. Moshe, il est entier. Et donc pour Moshe, ça n'existe pas un demi. C'est comme quand Dieu lui avait dit, pour Rosh Chodesh, qu'il lui avait montré la lune, Bechidusha, il avait marqué Itkasha Moshe. Il dit, moi, je sais comment on fait Kadosh quand c'est Shalem, quand c'est rond, mais pas quand c'est moitié. C'est-à-dire ? Donc ici, Akadosh Baruch Hu lui apprend la dimension de la Ishtalmut. tout n'est pas que Shlemut. Il y a ici également la Ishtalmut, comme dit le Rav Kook. Il y a donc la perfection et il y a également le perfectionnement. D'accord ? Alors, ok. Zeitenu kol haover al hapekudim machatzit hashekel b'shekel hakodesh. 20 gera hashekel, machatzit hashekel teruma l'Hashem. Et donc, qui doit donner ce demi-cycle d'argent ? Qui coûte combien d'ailleurs ? Kamaze machatzit hashekel ?
18 shekels.
Aujourd'hui, on dit, ouais, plus ou moins 20 shekels. Plus ou moins 20 shekels. Est-ce que c'est faisable, à votre avis, pour tout le monde ? Oui. Et c'est pour ça qu'on nous dit, « Kol haover al hapekudim miben esrim shana vamala, yiten terumat Hashem, et ashir lo yarbe, ve'adal lo yamit. » Il n'y a pas de possibilité pour les riches de se la péter et de donner plus, et il n'y a pas non plus de anachot, il n'y a pas non plus de, comment on dit en français, de réduction pour les pauvres. Donc c'est un impôt très particulier parce que tout le monde donne la même chose. Pour dire quoi ? Pour dire que quelque part, on est tous égaux.
L'égalité, fraternité.
C'est-à-dire que peut-être que toi, tu as une maison à 7 étages et que moi, je vis dans une tente.
Pareil.
Mais on est égaux. À quel niveau on est égaux ? Dans notre appartenance au peuple juif, on est égaux. Dans notre relation à Dieu, on est égaux également. Parce que la question se pose maintenant, mais à quoi ils servent ces machatziot shekel? Ça sert à quoi? On va faire quoi avec? Zetrouma la Hashem. Ma osim. Ils vont servir à quoi? Vela karta et kesef a kippurim med bene Israël, venatata oto alavodato el moed, vaya livne Israël le zikaron livne Hashem le chaper. Donc à quoi vont servir cet argent-là ?
Le service.
À acheter quoi ? Alors, nous dit ici Rashi, iné, à la vodat ou el moed, nous dit qu'il y a eu trois choses. Il y a trois choses qui vont servir à, enfin qui vont être utilisées avec machatzit à shekel. Hein?
C'est pour le socle.
Alors, c'est pour les socles du Mizbeah. Pas du Mizbeah, du Mishkan, c'est-à-dire. C'est pour les adanim chez la Mishkan, qui sont faits en argent. Les socles sur lesquels on met les poutres qui vont permettre de tenir le Mishkan. On va également donner Echad Trumata Adanim, Vechad Vacheniti al. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, où est-ce que c'est marqué? Je vais te dire exactement. Voilà. Vachenit, les korbanot à Tzibour. C'est aussi avec ça qu'on va acheter tous les korbanot de l'année. Mais pas les korbanot que toi et moi, on doit amener parce qu'on a fait une faute. Korban Tzibour. OK? Korban Tamid, Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim.
Les korbanot Tamid.
C'est-à-dire les korbanot Tamid, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres korbanot Tzibour que Tamid pendant les fêtes. Mais korbanot Tzibour, Vashlishit, Trumat Amishkan. C'est ce qui va aller également à la construction du Mishkan, ce qu'on va faire en argent. Mais donc ça veut dire que ce Machatzit HaShekel, que moi je vais donner, va servir à quoi ? À régler la relation de tout Israël avec Dieu. Et par l'intermédiaire du Mishkan et par l'intermédiaire des Korbanot. Parce que là, les Adanim, ça marche pour le Mishkan. Mais quand on sera au Beth Amikdash, il n'y a plus de Adanim. Donc, ça servira au Korbanot Tzibour uniquement. Donc, ça veut dire que moi, mon Machatzit HaShekel sert à la bonne relation de tout le peuple juif avec Dieu.
Tout le monde a participé.
Tout le monde a participé. Si jamais il y a un riche juif tzadik qui veut, je ne sais pas moi, il veut faire Laurent Lévy. Voilà. Il est fan du Beth Amikdash, il veut construire le Beth Amikdash et il dit, moi, je fais un chèque et je fournis les korbanot pour les 5 premières années du Beth Amikdash. Un sou. Korbanot Tzibour, c'est pas un homme qui peut les donner. Très gentiment d'ailleurs, mais il peut pas. Maintenant, au-delà de ça, te pose la question, la Gemara, hein, dans le traité de Megillah. Lama, on dit Parashat Shkalim avant Purim. J'ai très bien compris l'idée dans la Parasha. Et j'ai compris aussi pourquoi on doit dire Parashat Shkalim avant Pessah. Pourquoi on doit dire avant Pessah ? Pour prévenir les Juifs de ne pas oublier, quand ils vont arriver à Pessah au Beth Amikdash, d'amener leur machatzit à Shekel. Puisque c'est un impôt qu'ils doivent donner une fois par an, ils vont arriver à Pessah au Beth Amikdash, bah qu'ils n'oublient pas le machatzit à Shekel. Donc, avant Pessah, il faut rappeler à tout le monde qu'il y a cette mitzvah de machatzit à Shekel. Donc, c'est tout à fait compréhensible pourquoi on rappelle cette paracha-là avant Pessah. La Shéla, c'est pourquoi on la rappelle avant Pourim. On aurait très bien pu dire on fait Pourim et la paracha d'après, vous savez, dans les quatre parachiotes. On aurait très bien pu dire que paracha Shkalim, on l'a dit après Pourim. Ouais ? Si c'est pour prévenir les gens de venir. Hein ? Non, t'as raison. À l'époque de la Torah, quand on parle Parashat Shkalim, il n'y a pas encore Pourim. C'est Nachon, tu as raison. Mais lorsqu'on va mettre en place les Arba Parashiot, c'est-à-dire, ces Arba Parashiot sont là pour préparer à Pessah. Moi, j'entends bien. Mais pourquoi Parashat Shkalim, ils ont décidé de la mettre également avant Pourim ? Que tu me dis Parashat Zachor avant Pourim, je comprends. Zachor Asher Asalecha Amalek, juste avant Pourim, c'est logique. Mais pourquoi tu me dis Parashat Shkalim également avant Pourim ? Si c'est pour annoncer aux gens d'amener leur Shkalim au Beth Amikdash, tu peux le dire après Pourim. D'accord ? Regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe que tu vas dire Parashat Shkalim, à Rosh Chodesh Adar Bet. Ensuite, tu vas dire Parashat Zachor avant Pourim. Ensuite, après Pourim, tu vas dire Parashat Para Aduma. Et juste avant Rosh Chodesh Nissan, tu vas dire Parashat HaChodesh. Alors, Parashat HaChodesh, je comprends pourquoi c'est Rosh Chodesh Nissan. On te dit HaChodesh Azelachem, Rosh Chodeshim, c'est la Parashat qui parle de Rosh Chodesh Nissan. Donc très bien. Parashat Para, c'est pour nous expliquer qu'il faut être pur pour pouvoir aller au Beth Amikdash. Bon, je comprends que ce soit entre Pourim et Pessah. Mais il reste une semaine où on ne lit rien. Entre Pourim, entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah. Alors, des fois, ça tombe Shabbat Agadol, mais des fois, non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis là-bas Parashat Shkalim ? Parashat Shkalim, on l'a mis avant Pourim. Lama. Dis-le Rav Kook, Bamid Bar Shu. Parce que avant Pourim, c'est là qu'on va devoir expliquer quel est le remède à Pourim. À Pourim, il y a un homme qui veut tuer les Juifs. Vous connaissez ? Aman. Et Aman, il veut tuer les Juifs et il sait que ça va être difficile de convaincre Achashverosh. Pourquoi ça va être difficile de le convaincre ? Quel est son problème à Achashverosh ? Pourquoi Achashverosh il sera difficile à convaincre à tuer les Juifs. Arrête, c'est pas un philosémite. Ok, Achashverosh, il n'aime pas les Juifs autant que Haman, il n'aime pas les Juifs. Aval, qu'est-ce qu'il a comme problème à Achashverosh ? Assuérus. Tu veux tuer tous les Juifs ? Mais tu sais combien il me rapporte, les Juifs ? Attends, il a même fait un discours à Achashverosh où il a dit la Perse. Sans les Juifs de Perse, c'est plus la Perse. Ah non, c'est pas. Ah, c'est peut-être un autre qui a dit ça.
Non, sans les Juifs, c'est pas la France. C'est l'ancien Premier ministre. Bon.
Manuel Valls, si tu nous entends. Hein, avec les bêtises que tu as pu dire chez la Brioute. La France sans les Juifs de France, ça sera toujours la France. Et les Juifs de France, ils n'ont rien à faire en France. Donc, Yé Beseder, t'inquiète pas, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, Achashverosh, il dit, attends, mais les Juifs, c'est un business de ouf. Attends, tous les marchands et tout ça, c'est les Juifs. si tu me tues les Juifs, tu sais quel va être le manque à gagner ? Et donc Aman, il vient avec une proposition. Il dit, je paye. C'est-à-dire, je couvre le manque à gagner de la destruction des Juifs. Ah, je suis très très riche, je paye. Et puis tu sais, quand les Juifs vont mourir, on pourra aussi utiliser leurs biens. On aura des intérêts. Et combien il va payer Aman ? Aseret alafim kikar kesef leose eshkol leose amelacha. Kamaze aseret alafim kikar kesef. Combien ça fait ? Ça fait beaucoup d'argent, mais le Rav Kook fait un calcul. Et il dit aseret alafim kikar kesef. Quand tu sais combien c'est un kikar kesef, je ne me rappelle plus de la somme exacte. Il dit, c'est exactement machatzit ha-shekel fois 600 000. Donc en fait, tu as compris que Aman, quand il propose,
il connaît l'histoire.
Il connaît très bien l'histoire et il sait qu'est-ce qu'il veut proposer. Il dit, je vais racheter tous les Juifs en fait. Machatzit ha-shekel fois 600 000. Même si à l'époque de Haman, on n'est plus 600 000, c'est symbolique. Et donc le Rav Kook, il dit, pourquoi est-ce que nous, on va dire la paracha de Machatzit ha-shekel avant Pourim, que de l'agdim shiklenu l'eshkalav, pour précéder, faire précéder nos shkalim à nous, à ses shkalim à lui. Et nos shkalim à nous, machatzit ha-shekel, on a dit, sont là pour nous mettre bien dans la tête qu'on est un seul peuple. Que les machatzit ha-shekel, ils servent au korbanot tzibur, ils servent à construire le mishkan. C'est-à-dire qu'on est unis autour de cet impôt-là. Et ça montre l'unité du clan Israël, cet impôt-là. Qu'est-ce qui est la seule chose qui peut nous sauver de Haman ? C'est l'er kenos et kol ha-yehudim asher b'shushan. En d'autres termes, pourquoi c'est important de dire cette paracha-là avant, pas seulement Pessah, mais avant même Pourim ? C'est pour comprendre que le remède à Pourim, c'est Machatzit ha-shekel. Alors c'est vrai, il y a des rabbins qui vont dire non, mais techniquement on le dit un mois et demi avant Pessah, parce que les gens, des fois, ils viennent de très loin. C'est-à-dire. Fair enough. Mais au niveau de la profondeur de la chose, c'est parce que Machatzit ha-shekel, avant d'être ce qu'on va amener à Pessah, est le protecteur contre Pourri. C'est-à-dire, la notion d'appartenance à l'identité collective d'Israël, eh bien, c'est ce qui peut nous préserver de toute attaque extérieure. Et c'est la raison pour laquelle on commence la paracha du Vaudor avec cette paracha de Machatzit ha-shekel. La paracha du Vaudor, la paracha où on aurait pu penser qu'on n'est pas tous ensemble. La paracha où on aurait pu penser qu'il y en a qui ont fauté, il y en a qui n'ont pas fauté. Et où Moshe Rabbeinu va devoir prendre fait et cause pour tout le clan Israël. Ensemble. La paracha continue en nous disant Ve'asita kior nechoshet ve'kanon nechoshet le'rotza ve'natata oto ben'ohel moed u ben'amizbeh ve'natata shama maim ve'achatzu aharon u banav mimenu et yedeem ve'et regleem bevoam el'ohel moed yechatzu maim ve'lo yamutu o begishtam el'amizbeh lesharet la'aktir ishel Hashem ve'achatzu yedeem ve'regleem ve'lo yamutu. והייתה להם חוק קולם לא לזרוח לדורותם. מה זה? הכיור. Pourquoi on a fait besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que les Kohanim ils ont besoin de se laver les pieds et les mains avant de commencer la avoda? Hein, se purifier. Bah, ça veut dire quoi se purifier?
D'abord pour se laver.
Non, il faut pas la douche.
Il
faut pas la douche. C'est pas la douche, c'est juste les mains et les pieds. Il n'y avait pas des douches au Beth Amikdash.
entrer sortir, donc il y avait une sorte de méritza qui permet.
Et pourquoi? Non, mais la méritza, c'est autre chose. Là, ils doivent se laver pour se purifier, comme nous, on fait des tiyat yadayim. Chez la lame. Parce que tu vas t'occuper maintenant de Kedusha. Pour s'occuper de Kedusha, il te faut de la Tahara. Tahara, ça veut dire la connexion avec la vie. L'eau, c'est la vie. Donc c'est la connexion avec la vie, la Tahara, la pureté. Et bien, pourquoi est-ce qu'on t'a parlé de Kior maintenant, juste après Machatzit HaShekel? Pour que tu comprennes que la connexion avec la vie, c'est la connexion avec le peuple juif. Se laver les mains, se laver les pieds, c'est la Tahara. C'est quoi? Ça représente quoi la Tahara dans le judaïsme? C'est la connexion avec la vitalité. L'impureté, c'est quand tu as été en contact avec un manque de vie. Donc tu te remets de l'eau qui est la vie dans ce monde. Tu ne peux pas vivre sans eau. Donc l'eau, c'est la vie. Tu te mets de l'eau sur les pieds et sur les mains, c'est-à-dire sur ce qui va te permettre d'avancer et ce qui va te permettre d'agir, pour que tu sois connecté à la vie. C'est quoi la connexion à la vie par excellence? C'est la connexion au peuple juif.
Mais si tu parles de vie, on pourrait peut-être parler de Mikvé d'abord.
Alors, tu as raison que le Kohen Gadol, lui, il doit aller se tremper au Mikvé quand il va faire certaines choses de son travail. Nahon, c'est une dimension encore au-dessus. Mais on ne demande pas ça à tous les Kohen. D'accord? Hein? Il n'y a que le Kohen Gadol systématiquement. Le Kohen, il peut aller se tremper au Mikvé si jamais il a besoin. C'est-à-dire, c'est par exemple, si pendant la nuit, il a fait un petit rêve olé-olé et qu'il doit changer les draps le matin, il doit aussi aller au Mikvé avant d'aller au Bet-Amikdash. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas toujours. Mais se laver les mains et les pieds, oui. Et donc, ça veut dire que la connexion à la vitalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la connexion à Israël. C'est-à-dire? Et là,
c'est
oui.
C'est quoi la symbolique
de
purifier bon, sa main gauche et son pied gauche avec sa main droite et ensuite inverse. Quelle est la symbolique de ça?
Comme tu le sais, la gauche, Zemida Tadin, la droite, Zemidat Chesed.
Dans les deux.
Hein?
Oui. Ok.
Là c'est Chesed, là c'est Din. C'est pour ça qu'on te dit toujours que Leolam yé smol docha veyamin mekarevet. C'est-à-dire qu'on te dit, bon alors ça c'est dans un cas général où les gens sont de manière générale droitiers. C'est-à-dire, ça ne marche pas pour moi qui suis gaucher.
Moi non plus.
Voilà. Mais c'est un cas général, c'est une idée. Que la main droite est la plus forte, la main gauche est la plus faible. Et donc on te dit, la gauche c'est le din. Il ne faut pas que ce soit ça le plus fort dans ta vie. Avec la main gauche, tu repousses. Mais il faut que tu aies une main droite plus forte qui ramène. Et donc, c'est avec le chesed que je vais mettre sur le din. Mais je ne veux pas être que Hamoud Hamoud. Il faut aussi qu'avec le din, je mette un peu sur le chesed. D'accord? Maintenant, une fois que je suis connecté à l'identité collective d'Israël, que j'ai compris que la vie, elle me vient de ça, de cette force-là, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Quand une histoire, le Baal Shem Tov, un jour, il faisait très très chaud à Mejibouge. C'était en été. Le Baal Shem Tov, il a commencé la tefila, il est devenu le Chazan. Et les gens, ils ont dit, il va voir, c'est Shabbat. Et on sait que le Baal Shem Tov, il prie la Amida, chez lui, ça dure de 1h30. On va avoir très chaud, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire avant la fin. Alors ils ont dit, bon, on va faire entre nous. On va le laisser prier. On va sortir après la Amida, on va faire kidouche, on va faire un petit, on va manger un peu et tout. On a le temps, de toute façon, on pourra revenir dans 1 heure, il sera toujours en train de faire la Amida. Donc les mecs, ils font ça. Ils sortent après la Amida, ils font kidouche, ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ils rentrent dans la synagogue, ils s'attendent à voir le Baal Shem Tov en train de comme ça. Et non, pas du tout, il est assis. Il les attend. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quoi? Vous croyez que je m'élève dans les mondes supérieurs avec ma Amida tout seul? C'est grâce à vous, grâce au Minyan. Vous êtes parti, je suis tombé. C'est pas moi. Donc une fois que tu as compris que tu étais connecté à l'entièreté du Ham Israël et que c'est ça qui te donne la vitalité, alors qu'est-ce qu'on te dit? Vaïdaber, Hachem, El Moshe, El Emor, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרו 500 וכנמון בוסם מחציתו 50-200 וקנה בוסם 50-200 וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית העין ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה ומשכת בו את אוהל מועד ואת הארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת המזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם, והיו קודש קודשים, כל הנוגע בהם יקדש. לא יפה פרק כבר בנו? שמן המשחה. לונקשום. הוא באמת סופטו לסיסטנסיל, לסיור הארון ולכהנים. למה? מה הקשר עכשיו? סיטה קומחי, כתופפת את השד לאידנטיטי קולקטיב ישראל. Si tu as compris que c'est ça qui te rattache à la vie, alors je vais te donner un moyen mnémotechnique de te rappeler. On va mettre de l'huile dessus. Parce que l'huile, ça ne se mélange pas avec les autres. Il y a une particularité dans l'huile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des communautés qui ont le minhag à Hanouka de l'allumer avec de l'huile, mais de mettre de l'eau dans le truc d'huile pour montrer la séparation. Tu vois ? Montrer la séparation qu'il y a entre le peuple juif et le reste du monde. Vekidash ta otam kodesh kodesh vayu kodesh kodeshim kol hanogea bahem yikdash. Ve'et Aaron ve'et banav timshach vekidash ta otam lechaen li. Ve'el bnei Yisrael tedaber lemor shemen mishchat kodesh yeh zeh ledorotechem. Al besar adam lo yisach ubematkunto lo ta'asu kamohu kodesh hu kodesh yeh lachem. Ish asher yirkach כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחת מעמיו. אתה פל דרוע דפר סט ווילה פורטי בזאת הקונסומציון פרסונל. פסקו, זה תרומה ור לקולקטיביטי את ישראל. זה דו. אוקיי, ג'י קומפרי כעם ישראל תופפה לספרי. ג'י קומפרי כסט יוניטלה כדון לוי, וג'י קומפרי כיפו פרזרווה סט ויטליטלה. En la séparant du reste. Yomer Hashem et Moshe, car les chassamim, nataf, ou shechelet, vechelbena, samim, levona, zaka, bad bevad yé, vasita ota ketoret, rokar maase rokar, memulach taor kodesh, veshachakta mimena adek, venatata mimena lifne aedut, beoel moed, asher ivaed lecha shamma, kodesh kodeshim tiye lachem. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך להשם איש אשר יעשה כמוה להריח בה וניחת מאף אוקיי דרנר שוז המתחר פלס לקטורת פסקו זה בין בו דבר די כלידנטיטי קולקטיב ישראל לתירן פלסה כזה אל כמקונקט אבק לבי וכדונק אל נפה מלנג'ה אבק כבר כסוע Mais la kushia que je peux donner, c'est quoi? Et particulièrement dans la parasha de Kitissa, on va me parler de gens qui fautent. Peut-être que si tu as fauté, tu n'es plus rattaché à tout ça. Peut-être si tu as fauté, on te dégage. La ketoret, elle est formée de combien d'éléments? Combien d'encens, d'épices différentes il y a dans la ketoret? 11. Lama. Lama 11. Les 11 font référence à quoi? Dans la tradition juive, Achad Asar, on dit dans Echad Mi Yodea de Pesar, Achad Asar, Korvaya, les 11 étoiles du rêve de Yaakov, de Yosef, Slira, du rêve de Yosef. C'est quoi les 11 étoiles dans le rêve de Yosef? Yosef, il rêve que la lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se postèrent devant lui. Alors, soleil, la lune, c'est son père, sa mère. C'est quoi les 11 étoiles? Ses frères. Lorsque les frères entendent ce rêve, ils sont contents ou pas contents? Pas contents, sauf un. Réhouven est très heureux. Parce que ce rêve intervient juste après le moment où il a fauté avec la femme de son père. Avec Bila. Et voilà. Il pensait qu'à cause de sa faute, peut-être qu'il n'était plus compté dans le peuple juif. Et il voit qu'il y a 11 étoiles, que donc il en fait partie. Il comprend à ce moment-là que Afalpi Shechata Israël Hu, que bien qu'il ait fauté, il reste membre à part entière du peuple juif. Quelqu'un disait tout à l'heure, tu ne peux pas te convertir dans le judaïsme. Tu ne peux pas te convertir à quelque chose d'autre. Tu restes juif. La Ktoret, elle a 11 épices différentes pour nous rappeler cela. Et d'ailleurs, parmi ces 11 épices, il y en a une, c'est la Chelbena. Chelbena, en français, je crois qu'on dit galbadium. Mais ça pue. Ça sent pas bon. Ah ! Donc nous dit le tour, Ken, la tourim, que la Chelbena, c'est Keneged Arechaim. Ça fait référence au Rechaim. T'aurais pu penser qu'il faut l'enlever. C'est pour ça que la Braïta nous dit Veim chissar echad mikol samamena chayav mita. Pourquoi tu aurais pensé d'enlever hein? Parce que la Chelbena, je voulais l'enlever. Non. Et quand tu la mélanges aux autres, ça donne encore une meilleure odeur au reste. En d'autres termes, tu as besoin de faire comprendre à tout le monde que même s'il faute, il reste partie intégrante du peuple juif. Et c'est exactement ce que va comprendre Moshe dans toute la suite de la paracha, qui est la faute du veau d'or. Où Moshe va prendre conscience et va plaider envers Akadosh Baruch Hu que ce peuple juif-là, on ne peut pas le disloquer, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le mélanger à d'autres et on ne peut pas s'en séparer. Voilà pourquoi la paracha de Kitissa, qui nous parle de la faute, fait ses quatre introductions. Machatzit HaShekel, Netilat Yadayim V'Raglayim, Shemen HaMishcha V'Haketoret. Une fois qu'on a dit ça, on est bon. On est bon et on peut lancer effectivement l'histoire du veau d'or. Mais ça, c'est ce qu'on verra peut-être une prochaine fois. Chazak ou Balzac.